بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir comblé de six assises à travers cette radio de taqwa. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux qui sont derrière cet outil. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter de ses bienfaits. Nous nous retrouvons pour une autre assise autour de cette série. L'histoire se répète pour renforcer notre foi et pour se conseiller mutuellement la vérité, la patience et l'endurance, et pour y trouver un apaisement et pour savoir que les choses ne se passent que comme il les veut Allah subhanahu wa ta'ala, et que les épreuves sont inévitables dans ce bas monde. Et après la mort d'Abu Talib, qui protégeait le messager alayhi salam, les mécréants ont fait subir au messager d'Allah ce qu'ils ne pouvaient pas faire durant la vie d'Abu Talib. Le messager d'Allah a opté pour le changement du lieu et sortir sa da'wa de la Mecque vers d'autres lieux, espérant trouver des tribus et des clans qui accepteraient sa da'wa et qui le protégeraient pour transmettre le message de son souverain. Il est parti, alayhi salatu wassalam, vers Ta'if, à pied, pour trouver de l'aide chez la tribu de Taqif, dans l'espoir qu'ils accepteront le message d'Allah. Mais Taqif n'a pas répondu à la da'wa du messager, alayhi salatu wassalam. Mais il a suscité les enfants et les insensés contre le messager d'Allah, qui lui ont jeté des pierres au point de le blesser, alayhi salatu wassalam, et de faire couler son sang. Et il a patienté face à cela, et il est revenu vers la Mecque triste. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé l'ange des montagnes pour se venger d'eux. Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a préféré leur pardonner et de patienter. Allah a dit concernant notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans Sourate des prophètes, au verset 117, « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » La traduction approximative du sens de ce verset nous dit « Nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour l'univers. » Et oui, ce ne sont là que les éminents comportements de la prophétie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à la Mecque alors qu'il avait la possibilité d'en finir avec les mécréants et de se débarrasser de leur mal et de prendre le pouvoir et faire ce qu'il veut en donnant l'ordre à l'ange des montagnes. Mais ceci n'est pas la voie des messagers d'Allah. Les messagers d'Allah sont venus pour sortir les gens de l'adoration d'autres gens vers l'adoration de l'unique, le souverain des gens, et pour sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Et nous avons des leçons à retenir de ces événements cités dans ce passage que nous avons vu la semaine précédente. La première leçon, l'embargo général et économique, ceci est un vil comportement des mécréants depuis l'aube du temps jusqu'à nos jours. À la Mecque, Quraysh a décrété un embargo général et économique contre le messager d'Allah et ses compagnons dans la vallée d'Abu Talib. Et de nos jours, les mécréants décrètent des embargos économiques contre eux. Ils les ont décrétés contre beaucoup de pays. L'Irak, rappelez-vous, l'embargo contre l'Irak et autres. Mais ce qu'ignorent les mécréants, ce qu'ils ignorent, c'est que la subsistance des peuples, la subsistance des peuples sont entre les mains d'Allah et non pas entre leurs mains, et que c'est Allah qui décrète ce qu'il veut. Azza wa Jal, قال عز وجل قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. La traduction approximative du sens du verset nous dit: Demandez aux polythéistes qui vous attribue votre subsistance du ciel et de la terre. Répond, c'est Allah. Sourate Saba, verset 24. Et ces mécréants ignorent que par la générosité, la grâce et la miséricorde d'Allah, Allah n'a pas laissé la subsistance de ses créatures à d'autres créatures. قال عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Dans Surat le vent éparpille, le vent qui éparpille, la traduction approximative du sens du verset numéro 22-23 nous dit: il est dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis par le Seigneur du ciel et de la terre. Ceci est aussi vrai que le fait que vous parliez. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Et dans Sourate Hud, verset 6, la traduction approximative du sens de ce verset nous dit: il n'y a pas une créature sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Il sait où il trouve refuge et où il mourra. Tout ceci est consigné dans un livre explicite. وقال سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Toujours dans Sourate, le vent éparpille, qui éparpille, verset 58, le verset nous dit, dans sa traduction approximative du sens, cela: car c'est Allah qui est le dispensateur de tous les biens, le détenteur de la force inébranlable. Est-ce que les mécréants ont une raison? Allah qui donne la subsistance aux bêtes, aux insectes, aux oiseaux, etc., est-ce qu'il oubliera ceux qui disent ni digne d'être adoré qu'Allah et qui lui sont soumis? Il donne la subsistance aux mécréants et aux pervers qui font la guerre à la religion d'Allah et à ses disciples. Il privera ses soumis qui font triompher sa religion et qui a mis en application sa religion jamais de la vie. Jamais de la vie. Notre messager a dit dans le hadith, hein, dans Sahih al-Jami', la subsistance court derrière l'être plus que sa mort. La subsistance court derrière l'être plus que sa mort. Et aussi il a dit, subhanahu wa sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre, toujours dans Sahih al-Jami', si le fils d'Adam fuit sa subsistance comme il fuit la mort, sa subsistance le rattrapera comme la mort le rattrape là où il est. Allahu Akbar. Et dans le hadith du Sahih al-Jami', le messager a dit que l'ange Jibril lui a révélé qu'aucune âme ne mourra qu'une fois qu'il a terminé sa subsistance. Préservez les droits d'Allah et soyez dans le juste milieu dans la recherche de votre subsistance, et que le retard de l'acquisition de votre subsistance ne vous pousse pas à la chercher par les moyens illicites, car ce qui est chez Allah ne s'obtient qu'avec l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième leçon à retenir dans ces récits: la miséricorde, le pardon, l'excuse font partie des comportements de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Les mécréants le maltraitaient ainsi que ses compagnons, et quand il a fait dua contre eux pour qu'ils subissent 7 années de sécheresse comme les 7 années de Yusuf, Allah a exaucé son dua. Et quand ils sont venus demander au messager d'Allah de faire dua pour qu'Allah leur dissipe le châtiment, le messager d'Allah a fait dua pour qu'Allah leur descende la pluie et les secours. Et quand les gens de Taif ont agressé le messager, ils lui ont jeté des pierres, ils l'ont blessé, l'ange des montagnes est venu demander au messager d'Allah de lui ordonner de les engloutir et de retourner les deux montagnes contre eux. Le messager d'Allah a refusé cela. Et il a dit, j'espère qu'Allah fera sortir de leur descendance des gens qui réservent le culte exclusivement à Allah et qui lui font aucun associé. Allahu Akbar. Et là, ce ne sont que les comportements imminents de la prophétie. Et ça ne peut pas être autrement. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate la plume a décrit notre messager ainsi. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Verset numéro 4 dans sourate la plume. La traduction approximative du sens de ce verset nous dit « Ton comportement est imminent ». Et dans sourate les prophètes, verset 107, il est dit « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ». Dans la traduction approximative du sens de ce verset, « Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour les mondes ». Et dans sourate Le repentir, verset 128. قال عز وجل لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. La traduction approximative du sens du verset nous dit par Allah un messager issu d'entre vous est venu à vous. Il est peiné par ce que vous subissez comme difficulté. Soucieux de votre salut et bienveillant et miséricordieux envers les croyants. La troisième leçon à retenir ici, les prêcheurs doivent patienter pour la da'wa face aux mauvais traitements que les gens leur font subir. Ils ne doivent ni désespérer de la non-soumission des mécréants à Allah et du fait que les désobéissants ne se repentent pas et ne reviennent pas vers Allah. Ils ne doivent pas tomber dans le pessimisme à cause de cela. Les cœurs des créatures sont entre les deux doigts du clément, entre deux doigts du miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Il les tourne comme il veut. Combien d'hommes sont sortis la nuit de chez eux pour tuer le prophète d'Allah et quand le jour s'est levé, il est devenu leur compagnon qu'ils aiment le plus au monde. Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut, il guide qui il veut. Donc il n'est pas permis aux prêcheurs de désespérer des gens, ni d'induire les gens dans le pessimisme. Allah, c'est le seul qui guide. Le prêcheur n'a qu'à accomplir l'éclaircissement et sa récompense est chez Allah. La quatrième leçon à retenir dans les récits que nous avons vus la semaine dernière, le mauvais compagnon fait du mal à celui qui l'accompagne dans ce bas monde et au moment de la mort et le jour de la résurrection. Nous avons vu dans ce récit comment le mauvais compagnon qui est Abu Jahl a fait du mal à son compagnon Abu Talib. Quand le messager d'Allah a dit à son oncle, qui était sur le lit de la mort, il a dit à son oncle, Abu Talib, oncle, dis la ilaha illallah, une phrase qui sera un argument pour moi auprès d'Allah. Abu Jahl a dit à Abu Talib, ou Abu Talib, tu te détournes de la voix de Abdul Muttalib. Et Abu Talib est sorti de ce bas monde avec la voix de Abdul Muttalib, c'est-à-dire la mécréance. Il en est ainsi du mauvais compagnon. Il a l'effet de l'aimant. Il traîne celui, son compagnon, vers la voie vers laquelle il est. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention qui sont nos compagnons. Si c'est des moussafiq, on va devenir des moussafiq. Si c'est des tablir, on deviendra un tablir. Si c'est des ikhwan, des takfir et autres. Mais le bon compagnon, le compagnon vertueux, quand il s'assoit auprès de son compagnon au moment de la mort, il lui rappelle « La ilaha illallah » qu'il dira par la grâce d'Allah. Et le messager d'Allah nous a dit celui dont la dernière parole « La ilaha illallah » rentrera au paradis. Donc, frère en Allah subhanahu wa ta'ala et sœur en Allah subhanahu wa ta'ala, après le voyage douloureux vers Taïf, et après ce qu'il a subi alayhi salatu wassalam à Taïf, et après les 3 années de l'embargo injuste que les politistes ont fait subir aux messagers et à ses disciples dans la vallée d'Abu Talib, et après la mort de son défenseur Abu Talib et la mort de sa fidèle épouse Khadija, qu'Allah l'agrée, Allah a apaisé son messager par le voyage nocturne et l'ascension. Ce voyage avec lequel Allah a honoré son messager était une sorte de consolation et d'apaisement pour notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Le voyage nocturne qu'a effectué le prophète sur la bête Al-Buraq, qui était un peu plus petit qu'une mule et légèrement plus grand qu'un âne, possédait 4 pattes mais aussi 2 ailes. Al-Buraq, son nom, est issu du mot Al-Barq, qui signifie l'éclair. Le messager alayhi salatu wassalam a voyagé de nuit de la Mecque à la Sainte Mosquée de Jérusalem en compagnie de Jibril alayhi salatu wassalam. Et dans la Sainte Mosquée de Jérusalem, il a dirigé la prière en tant qu'imam devant les prophètes alayhi salatu wassalam. Et après, de la mosquée sacrée de Jérusalem, il y a eu l'ascension en compagnie de Jibril, et dans chaque ciel, le messager d'Allah a rencontré un prophète pour ensuite atteindre le gibier de la limite supérieure, Sidratul Muntaha. Et là, il a vu Jibril sous sa véritable forme, doté de 600 ailes, comme il est mentionné dans le Coran. Dans Sourate l'Étoile, verset 13, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. La traduction approximative du sens du verset, il l'a pourtant vu lors d'une descente près du gibier de la limite supérieure. Le lendemain matin, de retour à la Mecque, le messager d'Allah informa son peuple de ce qui lui est arrivé. Et bien sûr, son peuple le démentir encore plus qu'auparavant. Et lui demandèrent de leur décrire la sainte mosquée de Jérusalem. Allah la lui éclaira pour qu'il la voie correctement. Il se mit donc à leur décrire précisément, Il ne put rien réfuter de ses propos. Il les informa même sur leur caravane qu'il avait vue, leur détaillant sa trajectoire, son retour et l'heure à laquelle ils arriveraient à destination à la Mecque, ainsi que le chameau qui ouvrait la marche. Tout était exactement comme il l'avait décrit, alayhi salatu wassalam. Ce qui ne fait que rajouter à leur perte, car les injustes s'obstinent à préférer la mécréance. Et durant ce voyage nocturne, Allah a instauré l'obligation de la prière directement, sans intermédiaire, là-bas, au-dessus des 7 cieux, auprès du gibier de la limite. La prière, qui est le pilier principal après l'attestation de foi, sans laquelle la religion ne s'accomplit pas. La prière, qui est le premier acte sur lequel le soumis à Allah sera questionné le jour de la résurrection. Si la prière est bonne, il a réussi. Et s'il est mauvais, il a perdu. Dans Riyad Salihin, authentifié par Cheikh Nasser Dil Albani, le messager d'Allah a dit, le premier acte du serviteur sur lequel se feront les comptes le jour de la résurrection, c'est la prière. S'il est bonne, il a réussi. Et s'il est mauvaise, il a perdu. La prière, c'est le dernier conseil qu'a conseillé le messager à sa communauté. Et il a dit, préservez la prière, et le droit de ceux qui sont sous votre responsabilité, le hadith. La prière, c'est la dernière chose qui restera de notre religion. Dont le hadith, dans Sahih al-Jami', le messager d'Allah a dit, la première chose qui disparaîtra de votre religion, l'honnêteté et le non-respect des dépôts. Et la dernière chose qui restera de votre religion, la prière. Et par le sevrant d'un prieur, dans lequel il n'y aura aucun bien. Et après le voyage nocturne et l'ascension de notre messager sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu le premier serment d'allégeance d'Al-Aqaba, la grande stèle. Durant cette année, avant le voyage nocturne, le messager d'Allah, donc après le voyage nocturne et l'ascension de notre messager, il y a eu le premier serment d'allégeance à côté de la grande stèle, l'Aqaba, l'allégeance d'Al-Aqaba, avec les futurs alliés de Médine, l'Ansar. Durant toutes ces années avant le voyage nocturne, le messager d'Allah se rendait à tous les grands rassemblements commerciaux et religieux chaque année. Et il suivait les pèlerins jusqu'à dans leur demeure, que ce soit à Oqad ou autre lieu, afin de les appeler à la soumission à Allah. Personne ne lui avait répondu favorablement et personne n'avait accepté de lui accorder l'asile. Pour aider son messager dans sa noble tâche, Allah avait fait en sorte que les tribus des Aous et des Khazraj de Médine entendent les savants juifs de Médine dire « Un prophète sera envoyé à notre époque. Nous le suivrons. Ils nous vous extermineront comme le peuple de Aad fut exterminé avant vous. » Les futurs Ansars de Médine accomplissent le pèlerinage à la Mecque comme tous les Arabes, contrairement aux Juifs. Lorsque les futurs Ansars virent le messager d'Allah appeler les gens à la soumission à Allah, ils réfléchissent à la situation. Les uns ont dit aux autres, « Par Allah, vous savez pertinemment que c'est par cela que les Juifs vous menacent. Que c'est par celui-là que les Juifs vous menacent. Ne les laissez pas être les premiers à le suivre. » Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que les Juifs mécroiront en son messager, comme ceci est relaté dans le verset suivant, dans Sourate Al-Baqara, la vache, numéro 89. « Qala azza wa jal, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. La traduction approximative du sens du verset, lorsque leur vint d'Allah un livre confirmant la révélation qu'ils possédaient, alors qu'auparavant ils annonçaient aux mécréants leur victoire sur eux à l'apparition du prophète, quand leur vint celui-ci même, qu'ils reconnurent, ils le renièrent, que les malédictions soient sur les mécréants. La vache 89. Lors de ce pèlerinage, le messager d'Allah a rencontré 6 hommes parmi les futurs Ansar. Il les a rencontrés à l'Aqaba, à côté d'eux, à l'est de la grande stèle. Parmi eux, il y avait Saad ibn Zurara, Jabir ibn Abdillah ibn Ghayyab Sulami. Le messager d'Allah les invitait à se soumettre à Allah, ce qu'ils acceptèrent. Et de retour à Médine, ils appelèrent à leur tour à la soumission à Allah. Qui se répondra très vite à Médine, au point que l'islam est rentré dans toutes les demeures sans exception. L'année suivante, c'est un groupe de 12 hommes qui se présenta au messager d'Allah, incluant 5 5 des 6 premiers, à l'exception du Jabir, il y avait avec Ubad ibn Samit et Abu al-Haytham ibn Tayhan, entre autres. Au total, 12 hommes. Les 6 premiers avaient dit au messager d'Allah, lors de leur première rencontre avec lui, qu'il existe une certaine hostilité. Ils lui ont dit qu'il existe une certaine hostilité et une animosité entre nos concitoyens, c'est-à-dire entre eux, l'Aus et le Khazraj. Qu'Allah les unit par ton fait, nous les appellerons à te suivre, et si Allah les rassemble autour de toi, il n'y aura pas d'homme plus prestigieux que toi parmi eux. Les tribus des Aous et des Khazraj étaient des frères. Ils avaient une ascendance commune. Leur origine remonte au Yémen, à la région de Saba. L'hostilité entre ces deux tribus naquit suite à un meurtre. La guerre entre eux dura 120 ans jusqu'à ce qu'Allah éteint le feu de celle-ci par l'islam. Allah les a unis par le biais de son messager alayhi salatu wassalam. C'est ce qui est indiqué dans le verset de Sourate Al-Imran, verset 103. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. La traduction approximative du sens de ces versets est: rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait vous êtes devenus frères. Lorsque ces 12 hommes sont venus cette année vers le prophète, ils étaient 2 de la tribu des Aous et 10 de la tribu des Khazraj. Ubad ibn Samit, selon Ubad ibn Samit, le messager d'Allah leur a dit: avancez pour me faire l'allégeance que vous n'attribuez aucun associé à Allah, et que vous ne voulez pas, et que vous ne commettez pas l'adultère, et que vous ne tuez pas vos enfants, et que vous ne calomniez pas, et que vous ne mentez pas sur personne, et que vous ne me désobéissez pas dans le bien. Celui qui s'inquiète de cela, sa récompense est auprès d'Allah. Et celui qui entrave quelque chose de cela, si l'on est châtié dans ce bas monde, ça sera son expiation. Quant à celui qui n'a pas été châtié dans ce bas monde, sa situation appartient à Allah. S'il veut, dans le delà, il le châtie. Et s'il veut, il lui pardonne. Ubad ibn Samit a dit, et nous lui avons fait l'allégeance pour cela. Cette allégeance est appelée l'allégeance des femmes, car il n'y a pas l'allégeance sur le combat, sur le sentier de Allah, Azzawajal. Ils ne contiennent pas cette première allégeance, ne contient pas le combat sur le sentier d'Allah Azzawajal. C'est pour ça qu'il est appelé l'allégeance des femmes. Ces deux hommes ont fait l'allégeance au messager lors de cette première allégeance dans ce récit rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Le messager d'Allah a envoyé avec eux Mus'ab ibn Umair pour leur enseigner le Coran et leur apprendre l'islam. Mus'ab ibn Umair a rempli sa fonction d'éducateur et de prêcheur de la meilleure des façons, en étant patient et endurant, en les exhortant avec science et sagesse, comme lui a appris le messager d'Allah. L'islam s'est propagé par son intermédiaire à Médine et dans ses alentours. Et avant le pèlerinage de l'année suivante, Mus'ab ibn Umair est revenu à la Mecque pour annoncer au messager d'Allah la propagation de l'islam et le résultat de sa da'wah durant l'année qui s'est écoulée. Comme s'il disait au messager d'Allah: oh messager d'Allah, Médine est prête pour t'accueillir, toi et tes compagnons musulmans et tes compagnons musulmans. Et lors du pèlerinage de cette année, il y a eu la deuxième allégeance. Les futurs Ansar, une fois arrivés à la Mecque, ils fixèrent un rendez-vous avec le messager d'Allah pendant les jours du Tashriq, les jours du Tashriq, ce sont les trois jours qui suivent le jour du sacrifice. Donc, ils fixèrent avec le messager d'Allah un rendez-vous pendant les jours du Tashriq pour lui prêter allégeance. Le jour du rendez-vous, après qu'un tiers de la nuit se soit écoulé, l'Ansar sortèrent vers leur rendez-vous, un par un ou par deux. Ils se réunirent autour du messager d'Allah qui était venu avec son oncle Al-Abbas. Et son oncle Al-Abbas qui suivait à l'époque encore la religion de son peuple, c'est-à-dire la mécréance. Mais il était désireux d'assister à l'affaire de son neveu pour s'assurer que ce dernier faisait le bon choix. Al-Abbas observa leur visage, regarda cette assemblée, tout en étant le premier à s'exprimer, c'est-à-dire Al-Abbas. Il dit, je ne connais pas ces gens, ils sont nouveaux. Puis il reprit, ô peuple de Khazraj, à l'époque, les Arabes appelaient les Aous et les Khazraj par les Khazraj. Ô peuple de Khazraj, vous n'êtes pas sans savoir la place qu'occupe Mohammed parmi nous. Nous l'avons protégé contre notre peuple. Il jouit d'une immunité dans sa cité. Cependant, il tient absolument à conclure cette alliance et à vous rejoindre. Si vous pensez réellement être en mesure de tenir vos engagements envers lui et de le protéger contre ses ennemis, alors il est sous votre protection. Il est sous votre responsabilité. Si par contre, vous pensez que vous risquez de le livrer à ses ennemis et de lui refuser l'aide promise après qu'il se soit rendu chez vous, alors laissez-le dès maintenant. Car ici, il jouit de puissance et d'immunité. L'Ansar répondirent, nous avons bien entendu tes propos. Ô messager d'Allah, exprime ce que toi et ton Seigneur souhaitaient. Exprime ce que tu souhaites ainsi que ce que veut ton Seigneur. Le messager d'Allah prit la parole. Il dit, j'accepte le serment d'allégeance à la condition que vous me protégiez si je vous rejoins, comme vous le faites pour vos femmes et vos enfants, en échange de quoi vous aurez le paradis, rapporté par l'imam Ahmed et par le Bayhaqi avec une chaîne jugée par Cheikh Nasr Din Albani de chaîne authentique. Le premier à prêter allégeance au messager d'Allah fut le Barra ibn Marour en disant, par celui qui t'a envoyé par la vérité, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, nous te protégerons assurément de la même manière que nous protégeons nos femmes. Reçois notre allégeance, ô messager d'Allah. Nous sommes des guerriers et des combattants, car nous avons hérité cela de père en fils. Et c'est là qu'Abul Haytham ibn Tayhan intervint et dit, nous entrenons des rapports avec des gens, c'est-à-dire avec les juifs à Médine, que nous allons rompre. Regardez l'alliance, comment il est, il dit à eux. Nous entrenons des rapports avec des gens, c'est-à-dire avec les juifs, que nous allons rompre. Cependant, si nous tenons nos engagements et qu'Allah te fait triompher, vas-tu nous quitter pour retourner auprès de ton peuple? Le messager d'Allah sourit et dit, non par Allah, le sang est le sang. Et le sacré est le sacré. Je me réclame de vous et vous de moi. Je combattrai quiconque. Quiconque vous combat, il ferait la paix avec quiconque fait la paix avec vous. Rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Lorsque l'Ansar s'avancèrent pour lui prêter allégeance, le plus jeune d'entre l'Ansar s'avança, qui est Sa'd ibn Zarara, et prit la main du prophète. Il dit, doucement aux habitants du Yathrib, Yathrib c'est Médine, doucement aux habitants de Médine, doucement aux habitants du Yathrib, nous ne sommes venus à lui qu'après avoir su qu'il était le messager d'Allah. Sa sortie aujourd'hui de la Mecque et son arrivée à Médine signifient la séparation avec l'ensemble des Arabes, le meurtre des meilleurs d'entre vous et la confrontation avec les sabres. Soit vous pensez pouvoir endurer cela, alors prenez-le avec vous et votre récompense se trouve auprès d'Allah. Soit vous avez peur pour vos personnes, alors laissez-le et s'en excusera pour vous auprès d'Allah. L'Ansar lui répondèrent, « Ô Saad, ôte ta main de là. Jamais ne laisserons tomber ce serment d'allégeance et jamais ne l'annulerons. » Radiallahu anhu l'Ansar. Ils se levèrent les uns après les autres pour lui prêter allégeance en contrepartie de l'obtention du paradis. Lorsque l'Abbas se rendit compte qu'il y avait trop de bruit, il leur dit « Doucement, il y a des gens qui cherchent à nous espionner. » Puis le messager d'Allah s'exprima en disant « Choisissez-moi 12 leaders parmi vous, chacun sera chargé de l'application du pacte auprès de son clan et tout comme les apôtres auprès de Isa bin Maryam. Quant à moi, je me chargerai de son application pour mon clan. » Et dans une autre version, Moussa avait choisi parmi son peuple 12 représentants, rapportés par l'imam Ahmed et par le Bayhaqi, selon une chaîne de transmission authentique. Donc, il y a eu ce serment d'allégeance. Lors de ce serment d'Al-Aqaba, ce deuxième serment, il y avait 70 hommes et 2 femmes. Quand ils ont terminé de prêter l'allégeance au messager, Shaitan a crié d'une voix perçante comme on n'en avait jamais entendu avant. « Où habitant des demeures, savez-vous que Muhammad est avec les jeunes? Ils se sont unis pour vous combattre. » Le messager d'Allah de dire, c'est le démon d'Al-Aqaba, c'est le démon de la grande stèle. Par Allah, ô ennemi d'Allah, je vais m'occuper de toi. Puis le messager leur ordonna de regagner leur tente. Abdullah ibn Nahda dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, si tu le souhaites, nous fondrons sur les habitants de la Mecque avec nos épées dès demain. Le messager d'Allah, regardez cette fois, juste après un serment d'allégeance, le messager lui dit, ce n'est pas ce qu'on nous a ordonné de faire. Retournez plutôt à vos tentes, ce qu'ils font tous. Et le récit rapporté par l'imam Ahmad rahmatullah alayh. Le lendemain matin, un groupe de notables parmi les Quraychites se présente aux Médinois, présente vers les tentes des Médinois, en disant, l'information nous est parvenue que vous avez rencontré notre compagnon hier dans le but de l'accueillir à Médine et que vous lui avez prêté allégeance pour nous combattre. Or, par Allah, soyez sûrs que vous êtes les dernières personnes parmi les Arabes avec qui nous voudrions que la guerre éclate. Les Médinois s'en défendèrent, ceux qui n'étaient pas au Coran, jurant par Allah que rien de tout cela n'était vrai, alors que ceux qui ont assisté au serment d'allégeance se regardaient les uns les autres. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul leur dit, ceci est faux. Rien de tout cela ne s'est passé. Il n'est pas possible que mon peuple fasse pareille chose sans m'en aviser. Même si j'avais été à Yathrib, il m'aurait jamais fait cela sans me consulter d'abord. Le groupe de Quraysh se leva. C'est lorsque les Ansar, lorsque les Médinois quittèrent la Mecque, que les informations obtenues par Quraysh soient confirmées. Allahu Akbar. Regardez, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut quelque chose, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut faire triompher quelqu'un, hein, et faire triompher quelque chose, il lui prévoit tous les moyens. Regardez la cause, c'était quoi? Tout simplement, ces Midinois ont entendu des Juifs que bientôt un messager va être envoyé et nous allons, hein, vous combattre avec et vous exterminer. Et quand ils sont venus au pèlerinage, ils ont vu le messager appeler vers Allah. Ils se sont dit, c'est l'homme, hein, avec lequel nous menaçaient les Juifs à Médine. Il ne faut pas qu'il ne, hein, qu'il ne devance à le suivre. Et regardez comment les premiers, les six premiers, ont fait leur allégeance. Et après la deuxième année, comment ils ont, les six premiers se sont soumis à Allah, ils sont partis, ils ont propagé l'islam selon leur capacité à Médine, et dans toutes les maisons à Médine, on savait ce que c'était que l'islam. La deuxième année, au pèlerinage, 12 sont venus de Médine, et ils ont fait la première allégeance au prophète alayhi salam. Et là, après cette allégeance, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Moussa ibn Omar pour leur enseigner le Coran, pour leur enseigner l'islam. Et radiyallahu anhu arda était le premier émissaire et le premier prêcheur que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a envoyé. Et il a rempli sa fonction comme il se doit, comme, hein. Et après, il y a eu l'arrivée de ce grand nombre pour la deuxième, le deuxième sermon d'allégeance, qui par la suite sera, va acheminer le prophète et ses nobles compagnons vers la hijra, vers Médine. Et nous allons arrêter là, inshallah, pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barak Allahu fikum. Wa ahsan Allahu ilaykum. Wa jazakum Allahu khairan.